Radio France Internationale.
Elle est l'une des plus grandes journalistes de la presse écrite française, celle par qui le scandale est arrivé, elle qui a révélé la première, l'affaire Benalla dans le journal Le Monde, c'était au mois de juillet dernier, elle qui a révélé ensuite les affaires troubles de l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron en Russie avec la complicité d'un militaire français, ce qui lui a valu hier une convocation devant la DGSI, l'un des services de renseignement français. Ariane Chemin est notre invitée, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit hier lorsque vous êtes sorti des locaux de la DGSI ?
Alors, pour reprendre simplement votre petit préambule, je n'étais pas convaincue sur le papier parce que j'avais révélé le nom de cette personne, mais simplement parce que j'avais révélé son appartenance, son ancienne appartenance aux forces spéciales. Donc, quand je suis sortie et entrée d'ailleurs dans les locaux de la DGSI, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose de bizarre. Ça fait 25 ans que je suis journaliste.
C'est la première convocation devant la justice depuis que vous travaillez ?
Non, pas du tout. J'ai été mise en examen. J'ai eu 13 procès que j'ai d'ailleurs tous gagnés. Mais en revanche, je n'avais jamais été convoquée par la DGSI, c'est vrai. Et en fait, ce qui m'a étonnée, c'est que j'ai été entendue dans des tout petits locaux, sombres, au quatrième sous-sol, avec des menottes à côté de vous, des néons, qui sont d'ordinaire réservés à des auditions de supposés terroristes ou terroristes. Donc c'est ça qui m'a étonnée. Et ceci en vertu d'une loi qui date de 2016, qui est une loi antiterroriste, qui a été votée juste après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan à Paris. Et c'est là qu'on voit à quel point ces dispositifs un peu spéciaux, ces lois d'exception peuvent être parfois dangereux, puisque en l'occurrence, là, ils ont servi à entendre 9 journalistes.
Alors on va revenir sur la multitude de ces convocations de journalistes ces dernières semaines, mais pour d'abord revenir à votre audition, que vous ont demandé précisément les policiers de la DGSI ? Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir ?
Eh bien, c'est entre la tentative de légère intimidation, enfin c'est pas très intimidant non plus, il faut pas non plus en rajouter, mais et puis quand même de manière un peu biaisée ou parallèle, essayer de savoir connaître votre source, puisqu'ils vous le demandent, comment avez-vous vérifié que un tel ou que vous écrivez, comment avez-vous eu confirmation. Donc c'est une manière de vous demander vos sources. Bon, évidemment, je me suis abritée derrière la loi sur la presse de 1881, notamment son article 2 qui stipule que vous pouvez vous taire et ne pas répondre aux questions, et évidemment protéger vos sources, ce que j'ai fait.
C'est un droit effectivement reconnu aux journalistes. Quand la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, la semaine dernière, expliquait que les journalistes étaient des justiciers, des justiciables, comme les autres, pardon pour le lapsus, elle se trompe, c'est complètement faux.
Elle se trompe, évidemment, ils sont des justiciables comme les autres dans leur vie quotidienne. Effectivement, si je vole quelque chose dans un supermarché ou si je commets un délit, évidemment je suis une justiciable. En revanche, dans l'exercice du métier, ils ne sont pas des justiciables comme les autres. C'est ce qui permet aux démocraties d'exister. C'est ce pouvoir de raconter et de, aux lecteurs, et de ne pas taire tout ce qui est d'intérêt public. C'est ça qui fonde une démocratie.
Alors, à l'issue de cette audition, que vous ont dit les policiers ? Est-ce que la plainte déposée par Chokri Wakim, l'homme dont vous avez révélé...
Oui, pas par le parquet, hein, c'est une plainte déposée par l'avocat de la personne soi-disant mise en cause, puisque je nie qu'elle l'ait été. Donc, on ne sait pas. Hein. Après, c'est le parquet qui va classer ou pas l'affaire, donc ça, je n'en sais rien. Mais ce qui est vrai, c'est que quand vous êtes convoqué à la DGSI, en audition libre avec un avocat, eh bien, vous y êtes comme suspect. C'est-à-dire qu'on vous explique pendant une heure, en vous lisant les textes de cette fameuse loi de 2016, que vous avez commis une erreur et que vous êtes passible, on me l'a répété, de 5 ans de prison et d'une amende. Donc c'est ça le climat, si vous voulez, qui me semble quand même très très curieux. Ça ne ressort pas du tout de la loi sur la presse, mais d'une loi antiterroriste. Et là, c'est vrai qu'on change de registre.
Voilà, une législation qui est un peu détournée de ses buts. Vous n'êtes pas la seule à avoir été auditionnée, être convoquée par la DGSI. 9 journalistes en tout. Alors vous, c'est sur un des volets de l'affaire Benalla. Les autres, c'est principalement pour l'affaire des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite qui tue des civils au Yémen, la révélation d'une note confidentielle du renseignement militaire. Quand la DGSI convoque des journalistes comme ça, c'est une façon d'intimider la presse ou d'intimider les sources ?
Je pense les deux, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour un journaliste de France Inter, par exemple, qui a été convoqué, ou pour moi, parce que nous avons derrière nous de grosses rédactions, un soutien important, des journaux solides. C'est plus compliqué pour de jeunes journalistes comme ceux de Disclose, par exemple, qui qui ont été convoqués, qui n'ont pas l'habitude de ces pratiques, qui sont forcément plus fragiles parce que Disclose est récent.
Qui ont révélé qui ont révélé la note confidentielle du renseignement militaire sur les ventes d'armes à l'Arabie.
C'est beaucoup plus compliqué et c'est aussi pour ça que on a publié dans Le Monde un billet suite à cette convocation à la DGSI. C'est moins pour moi que pour tous les autres, vous voyez. Les autres, il faut les défendre aussi. Et c'est pas un réflexe corporatiste, c'est un réflexe de démocratie.
Justement, c'est ma question, parce que vous parliez de soutien reçu. Les sociétés de journalistes de la plupart des médias français et ici à RFI vous ont apporté leur soutien. Est-ce que cette indignation, elle dépasse le petit monde des journalistes? Est-ce que l'opinion, vous avez le sentiment que l'opinion publique est consciente des dangers que ça peut peser sur la démocratie?
Oui, je crois, parce que ça m'a frappé au nombre de réactions qui étaient même parfois un peu gênantes pour moi. Je leur dis, écoutez, il m'est rien arrivé, j'ai pas été otage, je suis pas en prison, j'étais même un peu gênée du nombre incroyable de réactions et de messages de soutien que j'ai reçus. Mais ça prouve bien que ce n'est pas un réflexe corporatiste. Et il faut pas que ça le soit, d'ailleurs, parce que la démocratie, ça concerne tout le monde.
Ça fait 25 ans, vous l'avez dit, que vous exercez le métier de journaliste. Est-ce que vous avez senti une évolution dans la pratique de votre métier face aux pressions du pouvoir, en particulier ces dernières années?
Alors, évidemment, je ne ferai aucune comparaison avec des pays étrangers où on ne peut pas exercer son métier. Il faut faire très attention à ça, hein. On reste quand même un pays démocrate, libre, mais simplement une évolution, je pense, oui. D'abord, cette loi d'exception, hein, qui ne dépend pas d'Emmanuel Macron, elle a été votée avant son élection. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention aux lois antiterroristes votées dans des contextes particuliers parce qu'elles peuvent être détournées de l'usage prévu. Ensuite, effectivement, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on assiste, notamment depuis l'été dernier, depuis la fermeture, là, un discours nouveau. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron dit à la Maison de l'Amérique latine cette critique, cette presse qui ne cherche pas la vérité, c'est infamant pour toute la profession. Hein. C'est quand même pas pour ça qu'on est journaliste. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on a un peu oublié, mais à l'été suivant son élection, Emmanuel Macron a voulu créer son propre média. Il ne l'a pas fait, mais bon, il a attaqué à la fois Libération et... Enfin, ses deux de ses ministres ont attaqué à la fois Libération et Le Monde parce qu'on avait révélé pour Libération une ordonnance de la loi travail avant qu'elle soit publique, et pour nous parce que nous avions dévoilé le canevas de la loi sur l'audiovisuel public. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'on n'en avait pas tellement l'habitude. Je pense qu'Emmanuel Macron, il a un petit problème avec la presse, rien de très grave encore, mais à surveiller.
Merci beaucoup, Ariane Chemin, pour votre témoignage.